Cap et cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, cap et cap, thématique, Toulouse et les mobilités. Bienvenue à tous et à toutes sur Esprit Occitanie, merci de votre fidélité. Alors vivre en ville et dans une agglomération en pleine extension comme Toulouse, même si nous ne sommes pas à Calcutta, Los Angeles ou Rio, nécessite une organisation et une intendance. Il faut se loger, se nourrir, se divertir, travailler, s'occuper de sa famille et l'occuper si on a des enfants. Bref, une infinité de tâches qui toutes supposent que l'on aille d'un point à un autre et donc que l'on se déplace. Les vieilles villes françaises, comme la nôtre, ont été dimensionnées à l'époque de la traction animale et la multiplication des voitures, des camions, des autobus, créent d'une part des engorgements et des embouteillages, et d'autre part participent largement à l'augmentation d'une pollution mortifère. Sans oublier qu'il y a la ville où l'on travaille, celle où l'on dort, celle où l'on s'amuse, et que ce ne sont pas nécessairement les mêmes. Il convient donc de trouver d'autres solutions pour permettre à la population de se déplacer, d'autres solutions que la voiture, bien sûr. Défi redoutable alors que la ville poursuit son expansion quotidiennement, mais pour combien de temps encore, et que l'époque est plus à l'individualisme forcené qu'à une certaine discipline sociale. Les différentes municipalités qui se sont succédées ont donc mis en place un certain nombre de solutions, d'autres sont à l'étude ou même en pleine construction. Dès lors, il devenait plus qu'intéressant de faire le point sur la situation des mobilités sur le Grand Toulouse, et ce sera notre première émission de rentrée parce que c'est un thème important et je voulais consacrer cette rentrée d'Esprit Occitanie à ce sujet. Alors pour évoquer cette question, pour décoder cette situation des plus complexes, je suis en compagnie de Jean-Michel Latte. Pendant une mandature, il fut le premier adjoint de Jean-Luc Moudin. Pour la seconde mandature, il a souhaité être pleinement le monsieur mobilité de Toulouse. Je ne sais pas si ce terme lui va, il nous le dira. Une tâche qui est loin d'être une sinécure, une tâche redoutable, même tant elle est fondamentale pour la plupart d'entre nous. Alors, il ne me semble pas qu'il soit utile de présenter véritablement Jean-Michel Latte, un homme marqué par l'ouverture d'esprit et la compétence, vous le savez. Par ailleurs, vieux Toulousain, il m'excusera de cet adjectif vieux. Professeur à l'université toulousaine, amateur de rugby, de chant occitan, les mal au cœur, il participe, il chante. De tauromachie, amoureux de sa montagne pyrénéenne, de son berger Pio, parlons de Pio, et de la langue occitane. Et puis, il se tient aussi parfaitement bien devant une table somptueusement garnie, donc beaucoup de qualités. Mais suffiront-elles pour réussir à transformer l'essai des mobilités toulousaine? C'est ce qu'il va à présent nous expliquer. Bonjour Jean-Michel Latte et merci de nous recevoir dans votre bureau de la mairie de Toulouse. C'est pour ça que vous entendez peut-être un son un peu inhabituel.
Bonjour.
Alors première question, dans quel état d'esprit abordez-vous ce qui est finalement un défi, transporter harmonieusement les Toulousains et rendre fluide leur déplacement?
Avec humilité, je crois que en matière de transport de mobilité, il faut être dans l'humilité. Il n'y a pas de solution toute faite. Il y a des solutions à mettre en œuvre et c'est la combinaison de ces solutions qui permettent d'avancer.
Alors ces solutions passent par un ensemble de moyens techniques, métro, bus, tram, et puis on parle beaucoup du téléphérique et peut-être du train, mais le train c'est peut-être plus l'apanage de la région. Alors qu'en est-il de tous ces éléments?
Alors tous ces dossiers avancent en commun. Si on commence à l'envers par le train, c'est un dossier qui est fondamental. C'est un dossier qui est fondamental parce que on ne peut plus travailler métropole d'un côté, région de l'autre. Et si on regarde la carte du métro, on s'aperçoit que sur la troisième ligne, on a prévu 5 gares d'interconnexion. Pourquoi ? Pour pouvoir travailler avec la région. Et le financement de la région, les 150 millions de la région pour la troisième ligne, viennent sur ces points de connexion. L'enjeu, c'est vraiment d'être en synergie. Et je dois dire que les relations avec la région sont excellentes par rapport à ça.
On avait cru le comprendre, même pas dans la campagne. Voyons M. Moudin et Mme Delga, je n'irai pas la main dans la main, mais presque, faire le tour de Toulouse dans des moments difficiles pour nos commerçants. On avait bien compris que ces deux personnes ne se haïssaient pas fondamentalement.
Et puis sur le train, je crois qu'on a l'intérêt commun. On a intérêt, nous, Tisséo, avoir des moyens qui nous permettent d'aller chercher les gens le plus loin possible, c'est le train. Et la région a intérêt à pouvoir redispatcher ses passagers sur l'ensemble de l'agglomération et ses métros. Donc ce sont deux systèmes qui ne sont en grande efficacité que s'ils sont coordonnés, si chacun travaille de son côté, on est mort. Hein, donc je crois que le mandat qui s'ouvre sera un mandat d'intermodalité. Alors après, il y a tous les autres moyens de transport, chacun a sa spécificité. La troisième ligne métro, c'est l'idée qu'il faut un transport lourd qui crée une grande barre nord toulousain.
Donc qui va aller d'où à où ?
Alors qui part de la Belge, qui va jusqu'à Colomiers. C'est une ligne très longue puisqu'elle fait la ligne A plus la ligne B en longueur. On est sur 27 km, 20 stations. Et c'est une ligne qui regroupe les grands pôles économiques entre eux. Pour le moment, curieusement, si vous prenez Airbus par exemple, Airbus n'est connecté à aucun système de transport lourd. Donc il y a vraiment une nécessité de créer cette architecture, mais elle n'est pas suffisante. Si on fait que la troisième ligne de métro, ben, on oublie énormément de personnes. D'où les projets complémentaires. On est en train d'inaugurer le tram qui va vers le Palais Expo. On a bien avancé sur le téléphérique. Le téléphérique, quand en 2014 j'ai ouvert le dossier, j'étais pas tout à fait favorable.
Qui c'est qui a eu cette idée ? C'est spécial le téléphérique en plateau.
Alors, l'idée
c'est parce
départ,
que vous êtes montagnard que vous avez pensé au téléphérique.
Et non, l'idée de départ, c'est Philippe Douste-Blazy. C'est lui qui est le premier à parler de ce projet. Et puis Pierre Cohen a donné une réalité à ce projet, a poussé les études avec une lecture un peu architecturale, mais c'était un projet qui correspond aux trois stations actuelles. La différence fondamentale entre le projet de Pierre Cohen et le nôtre, c'est que nous, on a intégré ce maillot dans la ceinture sud, ce grand trait rose qu'on voit sur la carte TCO et qui englobe une zone qui va jusqu'à Colomiers. L'enjeu, quand on inaugurera en juin le téléphérique, c'est d'être aussi en capacité de joindre les deux bouts du téléphérique vers les territoires. Et donc, il y aura une ceinture sud, en particulier Oncopole-Colomiers. Le but étant de pouvoir faire des grandes transversales sans passer par le centre de Toulouse.
Donc on va effectivement éviter tous les embouteillages de quelque nature qu'ils soient.
On espère.
Alors ça sera opérationnel quand ?
Juin prochain.
Ah déjà ?
Juin prochain parce que d'abord la partie bus est en train d'être terminée et puis parce que malgré la crise du Covid qui nous a retardé quelque peu, on sera prêt. Et ça sera d'autant plus important que ça soit inauguré en juin prochain qu'en octobre 2021, le grand congrès des transports va se tenir à Toulouse. On était en concurrence avec Bordeaux, on l'a obtenu. On aura 6000 congressistes qui viennent à Toulouse autour du thème des transports. On aimerait bien pouvoir les promener en téléphérique.
Mais donc, ils vont prendre un peu l'air. Hein. Comment ça fonctionne entre les différentes collectivités locales ? Parce que nous avons la ville, le département, la région, et puis à côté, on a aussi l'État. Ouais. Qui fait quoi dans cette nébuleuse ?
Et j'allais dire, il faut ajouter les intercommunalités comme le Sicoval, comme le Murtain, qui sont aussi membres de TCO. En fait, c'est un système qui est très complexe dans sa composition, mais qui est cohérent. Les villes, comme Toulouse, ont transmis leurs compétences transport à leurs intercommunalités. Donc c'est Toulouse Métropole qui a la compétence transport. Et Toulouse Métropole, avec d'autres intercommunalités comme le Sicoval, on crée TCO collectivité, donc 115 communes, 4 intercommunalités et 20 élus de l'ensemble de ces structures. C'est le petit parlement qui décide, TCO collectivité. Et il décide avec des partenaires qui peuvent être région, département et bien entendu l'État. Si je prends la troisième ligne métro, 150 millions d'aides de la région, 201 millions d'aides du département et sans doute 200 millions d'aides de l'État. Pour
un budget global de combien ?
De 3 milliards, 2 milliards 7.
Ça laisse quand même un certain delta.
Reste l'aide européenne qu'on n'a pas encore reçue, mais on est à plus d'un demi-milliard d'aides quand même sur ce type de projet, c'est pas mal.
Dans un sixième à peu près, quoi.
Un sixième. Après, c'est un investissement sur 40 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer une ligne de métro avec un investissement de court terme. Donc on est sur un amortissement long et... emprunter sur du long terme pour un projet comme ça, c'est un peu toujours ce qui s'est fait.
Et le téléphérique, ça vaut combien ?
Alors le téléphérique, 80 millions d'euros pour la construction, 82, et on a intégré dans le prix la maintenance. Et donc on est sur un investissement à 110 millions d'euros. C'est finalement assez
peu cher. Oui, ça paraît très modeste par rapport au reste.
Voilà, avec,
est-ce que le volume des personnes transportées sera suffisant ? Ce sont des cabines de combien ?
Alors ce sont des cabines de 30 qui passent toutes les minutes et demie.
Ah oui, ça
et donc,
quand même
on espère avoir rythme. Du 8000 jours au début, et plus après si ça marche.
Et à quelle hauteur?
Hauteur verticale?
Oui, verticale.
Oh, on est sur des séquences à 250 mètres à peu près. Le mât le plus haut, pour vous donner une idée, c'est le mât de l'Oncopole, il fait 70 mètres.
Oui.
Et après, on a une portance au-dessus de la Garonne qui est très très importante. Donc on a des écarts.
Il va y avoir un beau coup d'œil quand même là, ça va être
très beau coup d'œil. On pense qu'il y aura une part tourisme qui va se faire parce que quand on y va, moi je suis allé voir le pylône qui est tout au sommet, c'est le plus petit pylône, il fait 33 mètres, mais c'est le plus haut. Et là on a une vue incroyable sur tout le sol.
Alors il y a Barcelone qui a un téléphérique, alors qu'ils descendent de la colline vers le port, mais c'est quand même assez fréquenté et pas mal par les touristes.
Et nous, ce sera le plus grand téléphérique urbain de France, il y en a deux qui sont connus, celui de Grenoble. Et celui de Brest, c'est 400 mètres, c'est la rade de Brest. Nous, on est sur 3 km, et donc ça va être quelque chose de très différent, avec une allure urbaine. Quand on regarde les pylônes aujourd'hui, j'allais dire, je dis en rigolant, ils sont designés par Stark, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gros pylônes de station de ski, on est sur des pylônes élégants qui sont, je pense, beaucoup plus urbains. Et c'est un joli projet.
Oui, c'est un projet extrêmement original, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi vite. Donc, dans quelques mois, finalement, on va pouvoir se retrouver et en parler peut-être dans une cabine, tous les deux.
Voilà, ça sera avec plaisir. Et lors du congrès de d'octobre 2021, on pourra présenter Toulouse comme une ville équivalente à New York, c'est-à-dire une ville qui a à la fois le métro, le tram et le téléphérique. Il y a peu de villes qui arrivent à avoir ces trois outils.
C'est effectivement une comparaison osée, mais pourquoi pas. Et puis on aura peut-être la même criminalité que New York si on regarde les jours. C'est un autre débat, la sécurité, peut-être qu'on en parlera un jour. Combien de personnes transporte-t-on aujourd'hui, on le sait?
Oui, alors, en moyenne,
tout confondu.
Le réseau Tisséo, c'est 800-850 000 personnes jour.
Ah oui, c'est considérable.
Voilà, c'est considérable. Avec une montée en puissance.
TCO, pardon, Jean-Michel Latt, c'est TCO, c'est métro, bus, tram. Hein.
Voilà, métro, bus, tram, un jour téléphérique. Et on y ajoute les bus qui interviennent à différents niveaux. On a 110 lignes de bus, plus du transport à la demande sur la ruralité. Voilà, on a tout cela et ça fait du 850 000 jours environ.
Vous parliez du Parlement, si je puis dire, tout à l'heure. Ça fonctionne vraiment démocratiquement ou pas?
Ben, je pense. Hein, la dernière séance, qui était aussi la première séance du mandat, consistait à élire le président à bulletin secret. Donc, tout le monde pouvait s'exprimer comme il le voulait. C'est 16 de Toulouse Métropole, 2 du Murtain, 2 du Sicoval et 2 du SITPRT, qui est une petite structure complémentaire.
Et vous êtes sorti de l'urne?
J'ai eu, et ça a montré que j'ai voté pour moi, j'ai eu l'unanimité. Ce qui à bulletin secret est intéressant, mais il faut savoir qu'après, tous les vice-présidents à bulletin secret ont eux aussi eu l'unanimité. Donc on est sur un vrai consensus.
Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu politique, politicien là-dedans? C'est on est sur...
C'est pas le but. Hein.
C'est pas le but, puis on est sur de l'intendance. Il faut trouver la meilleure solution pour transporter les gens le mieux possible, le plus vite possible et le plus écologiquement possible.
On n'a pas eu de grosses divergences dans le mandat précédent. Hein. Les grands dossiers ont été votés à l'unanimité. Donc vraiment, il y a eu des débats préalables. On a beaucoup travaillé avec le Sicoval et la Belge pour voir comment on allait connecter le système sur leur zone, mais on a terminé dans un consensus général. Ça s'est plutôt bien passé.
Non, c'est déjà une bonne chose. La distance parcourue, pour avoir une idée, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même par tous ces moyens dans une année, vous la connaissez?
Oh, je pourrais le faire calculer, je ne l'ai pas en tête. C'est un chiffre qui peut être joli, on pourrait dire qu'on va trois fois sur la Lune.
Oui, voilà, quelque chose comme ça. Oui, Tintin n'est pas loin, là, objectif Lune.
Je n'ai pas le chiffre en tête, j'avoue. Hein, mais ce sont des... je pourrais l'avoir parce qu'on a le kilométrage commercial et on peut savoir combien de kilomètres on a fait, mais on est en millions de kilomètres bien sûr.
Et ce matériel tout confondu aussi, il faut le renouveler souvent, j'imagine, quelque chose qui travaille autant.
Oui, alors il y a des rythmes. Là on va vivre cette année quelque chose de très important, on va acheter sur les années qui viennent 250 à 300 bus. Pourquoi? Parce que les bus qui fonctionnent actuellement, ce sont les bus post-AZF. Ceux qui ont été achetés en 2002 parce que 300 bus avaient été détruits par AZF. Donc on est sur un renouvellement de marché énorme et on a décidé de faire des commandes rapprochées. Les bus vont donc changer pas mal sur le centre-ville dans dans les mois qui viennent, parce que c'est le renouvellement de l'outil ACDF.
Est-ce qu'on va adapter aussi la voie publique à ces autobus? Parce qu'on en voit certains qui ont quand même du mal avec le rayon de braquage dans certains quartiers.
Oui,
si vous allez à Bordeaux-Rouge, on voit que les bus ont quand même un peu de mal à tourner, surtout ceux qui ont la remorque. Là, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Les bus à souffler.
Les bus à souffler. Alors, ça paraît nouveau, mais moi, qui suis vieux, à 18 ans, j'allais 17 ans, j'allais déjà en Allemagne pour parfaire ma première langue, que j'ai oubliée complètement aujourd'hui d'ailleurs. Et il y avait déjà des bus à souffler, donc ce n'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau.
Non, mais c'est quelque chose d'extrêmement utile pour nous. C'est-à-dire, un chauffeur, un bus le plus important possible, c'est ce qui est le plus efficace pour nous. On peut ramener comme ça beaucoup de passagers. Hein. Paradoxalement, l'outil de transport qui nous coûte le plus cher, c'est la petite navette électrique du centre-ville. Parce qu'on a toujours le même chauffeur, mais une capacité très faible. Donc, voilà. Et ces bus à souffler nous sont très utile, il y en aura plus dans les années qui viennent. Les tracés sont faits avec les chauffeurs et quand il y a vraiment un problème, ils le font remonter. Hein. Et actuellement, sur les lignes qui fonctionnent, il n'y a pas de problème majeur hein, par rapport à ça.
Donc, collectivités locales, État, usagers, les usagers payent, pas tous, certains payent moins que d'autres, ouais. Et puis beaucoup de gens se sont émus à une époque que ce ne soit pas gratuit. Enfin, gratuit, c'est un très vilain mot parce que ça ne veut rien dire, il y a toujours quelqu'un qui paye.
Donc, en fait, on a trois ressources. On a trois ressources. La première ressource, la plus importante, on ne le sait pas toujours, c'est la fiscalité, puisqu'on a le versement transport. Le versement transport, c'est quoi? C'est la taxe que versent toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés. Dans nos ressources, chaque année, 250 millions viennent du versement transport. Cette année, Airbus nous verse 27 millions d'euros du versement transport. Donc, c'est une ressource considérable. La deuxième ressource, c'est ce que nous versent les collectivités locales. Et là, on est à 101 millions d'euros. C'est l'impôt, parce que collectivité locale, c'est l'impôt. Et puis, on a ce que verse l'usager. L'usager, il paye environ 80 millions d'euros dans un dispositif global de ressources de TICO. Ça veut dire que quand vous montez dans un bus, quand vous utilisez un moyen de transport, même quand vous payez l'impôt, vous êtes subventionné. Le coût réel d'un transport en centre-ville, ça coûte 1,70 € au plus cher. Ben, le coût réel, c'est 3 euros. Si vous allez à Balma, le coût réel, c'est 5 euros. Si vous allez à Brax, le coût réel, c'est 18-19 euros. Mais vous continuez à payer le prix du ticket. Donc, il faut savoir que l'usager, quel qu'il soit, il est déjà très largement subventionné. Alors après, la gratuité, ben, on est sur des bases communicantes. Si on décide qu'on laisse tomber 80 millions d'euros de ressources...
Il va falloir les trouver ailleurs.
Et donc, là, il y a deux solutions. Ou sur les collectivités locales, donc l'impôt local, c'est le contribuable qui payera, soit on baissera l'investissement. Et aujourd'hui, la demande, c'est pas tellement une demande sur le prix, c'est une demande sur le service. Je reçois très peu de lettres de gens qui me disent c'est trop cher. Je reçois beaucoup de lettres de gens qui me disent il faut des bus là, il faut des bus ici, il faut mettre en place des réseaux. Donc voilà, c'est un peu la logique. Et moi, je crois qu'on est dans une période où il vaut mieux investir plutôt que de partir sur des transferts de moyens.
Le budget global des mobilités à Toulouse, tout confondu, c'est...
Alors, il est multiple parce qu'il n'est pas uniquement assumé par TICO. TICO, le budget global, c'est
ce qu'on vient d'évoquer,
plus les subventions qui varient d'une année sur l'autre en fonction des projets, puisqu'on est sur des projets. Donc, on est sur un budget de ce type. Il faut savoir que TICO Collectivité verse chaque année au réseau 250 millions d'euros pour le fonctionnement. TICO Voyageur, donc pour fonctionner, est entièrement, bien sûr, subventionné par TICO Collectivité. C'est le système de vase communicant entre les différentes structures.
TICO, voilà. Quelle structure juridique?
Alors, TICO Collectivité, on est une autorité organisatrice des transports, donc structure publique.
Oui.
Hein, ce sont des fonctionnaires publics. TICO Voyageur, alors c'est une régie, mais à statut particulier, hein, c'est pas la régie traditionnelle, avec des contrats de droit privé. Et TICO Engineering, c'est une société classique. TICO Engineering, c'est un peu le bureau d'études. Et donc là, on a des personnes de droit privé.
Vous y retrouvez quand même.
On essaye. Bon, ce sont des montages qui sont classiques, hein, c'est l'autorité publique qui décide, TICO Collectivité, et ensuite des systèmes qui varient entre le semi-public et le privé.
Et le personnel, donc on a des personnels en contrat de travail classique, privé. Oui. Hein, voilà, vous, c'est votre spécialité, oui, c'est vrai qu'on parle. Et puis après, on a des fonctionnaires.
Tissier aux collectivités ouais. est composé avant tout de fonctionnaires.
Il y en a combien ?
Alors sur Tissier aux collectivités, on est sur 110 personnes. Sur Tissier aux ingénierie, on arrive à la centaine. Et puis Tissier aux voyageurs, 2800 personnes.
Ah oui, là c'est le noyau dur.
La grosse mécanique.
Tissier aux ouais. voyageurs, de contrat collectivité.
Alors on passe chaque année, enfin chaque année, on négocie chaque année, mais on débouche sur un contrat qui est plus long, un contrat de service public entre Tissier aux collectivités et Tissier aux voyageurs. Et c'est ce contrat de service public qui définit les demandes, les exigences de Tissier aux collectivités par rapport à Tissier aux voyageurs. Et il faut qu'il soit dans les clous de ce contrat de service public.
Il y a des revendications, c'est un personnel agité, compliqué à gérer. Il y a eu de grandes grèves. On a...
Oui, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de grandes grèves.
Oui, c'est très calme aujourd'hui.
C'est calme parce que bon, je crois qu'il y a un dialogue social important. Et puis je crois aussi qu'il y a une forme de responsabilité. Hein, le travail n'est pas facile. Hein, le transport, c'est jamais facile, c'est jamais simple. On a des complexités. Mais le niveau des rémunérations, je crois, est un bon niveau.
Alors, différentes questions quand on transporte des gens. D'abord, il y a la sécurité. On a souvent vu des conducteurs agressés. Un a été tué récemment. Ouais. Moi, je ne vois pas ça. Je prends le bus très souvent. Depuis quelques temps, je m'y suis mis assidûment. Je vois des gens très courtois, au revoir et merci au chauffeur.
C'est unique en France. Hein.
Oui, c'est très doux.
C'est unique en France.
C'est très agréable aussi parce qu'il y a une espèce de lien social et de communication qui se produisent. Mais pour autant... Il y a quand même des chauffeurs qui se plaignent de certaines agressions. Alors, elles viennent d'où ? Est-ce que c'est des quartiers spécifiques ? Est-ce que c'est général ? Est-ce que ça vient de certaines populations que l'on pourrait cibler, caractériser ou pas ?
Alors, ça peut intervenir de partout. On ne l'a pas trop su, mais pendant le confinement, on a eu des soucis. On a eu des soucis pourquoi ? Parce qu'on avait mis en place un système ouvert, gratuit, sans aucun contrôle d'accès. Et là, on a dû renforcer rapidement la protection. La police nationale nous a aidés parce que le système dérivait. Et on a remis en place non pas le paiement à l'époque, mais le contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'il fallait valider gratuitement, mais valider quand même sa carte Pastel. Donc on est revenu sur ça, mais on a en permanence des risques que subissent les chauffeurs. Alors on essaye de couvrir tout ça. On a... mis en place un système de caméras de vidéosurveillance dans les bus.
Oui, c'est peut-être pas mal.
Dans le tram et dans le métro, il y a depuis 1992-93 la création de l'INUA des caméras dans le métro, on en a 800 à peu près, parce que on a besoin de surveiller la façon dont les choses se passent, les incivilités, et puis on a maintenant des contrôles d'accès un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'incidents, on a des incidents comme dans les autres villes. C'est un métier, je répète, qui est difficile avec des populations qui sont très très différentes et qui peuvent générer des difficultés. Mais il n'y a pas de lieu de problème parce que le centre-ville, par exemple, est le lieu où on regroupe le plus de personnes. Donc statistiquement, c'est là qu'on a le plus d'incidents.
C'est pas sur des lignes ou des quartiers considérés à tort ou à raison comme difficiles ou pas.
On a pu avoir certaines lignes de bus qui avaient des problèmes de passage dans certains quartiers, mais c'était assez diversifié. Par contre, sur la statistique de l'incident, on est plutôt sur la partie hypercentre, parce que c'est la convergence de tous nos passagers.
Alors le Covid, vous l'avez évoqué, qu'est-ce que ça a changé au niveau des transports ?
Beaucoup de choses. Actuellement, on est sur un système avec masque obligatoire, avec distribution libre de produits hydroalcooliques, avec un contrôle renforcé qui est devenu un contrôle sanitaire. On était sur un contrôle de sécurité, on était sur ce type de contrôle. Aujourd'hui, on a cette dimension supplémentaire du contrôle sanitaire. On a des agents qui ont été recrutés pour faire la rentrée autour de la thématique sanitaire, ce qu'on appelle les agents sanitaires, des jeunes essentiellement, qui essayent d'expliquer aux personnes pourquoi on est sur ces contraintes-là. Le métro, c'est un lieu de confinement, donc on a intérêt à être rigoureux sur...
Dans l'autobus, au moins, enfin, moi qui le prends, je ne vois personne sans masque. Non, alors, il n'est pas toujours bien porté, ça c'est clair, mais au moins, ils ont les masques.
C'est plutôt respecté. On n'a pas d'inquiétude particulière aujourd'hui par rapport aux masques, parce qu'on constate que le respect est assez, assez fort. Bon, l'amende, c'est 135 euros. Hein,
oui, donc, c'est quand même dissuasif.
Voilà. Et il y en a peu. Il y a peu d'amendes. Il y en a eu au tout début du mois de septembre. Voilà, il y en a très peu.
Alors, question, parce que vous avez interrogé dessus, cette fameuse climatisation...
Alors, Sur le métro, il n'y a pas de climatisation.
Bon, donc déjà, on n'a pas de brassage d'air.
On l'a sur les bus. Et alors, on a bien entendu des référents nationaux qui nous disent que la climatisation sur un bus, ça ne pose pas de problème particulier.
Je vous avais fait passer une étude chinoise qui avait estimé qu'à partir du moment où l'air était brassé dans le bus, ça pouvait effectivement brasser
l'air. C'est-à-dire qu'on travaille en réseau. Et on a, au niveau du ministère de la Santé, des consignes qui sont applicables à l'ensemble des réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le dire, en France, tout le monde fait la même chose sur la base des préconisations du ministère de la Santé.
Oui, qui ne sont peut-être pas toujours... Mais enfin, bon, on ne va pas lui jeter la pierre non plus. On a quelque chose d'entièrement nouveau, c'est la première fois.
Oui, c'est compliqué.
Donc,
On est attentif. On me dit parfois, les chauffeurs de bus n'ont pas de masque. Oui, mais parce qu'ils sont derrière une vitre anti-agression. Oui. Pas un plexi, une vitre anti-agression. Donc, quelque chose d'extrêmement étanche. Et ça fait partie des protocoles nationaux, c'est pas localement qu'on l'a décidé. Certains portent le masque.
Oui, moi j'en ai vu avec le masque.
Voilà, mais c'est leur choix. Et la consigne nationale a été de dire que s'il y a vitre anti-agression, on peut tolérer l'absence de masque.
La nuit, comment ça se passe? Parce que la nuit, il faut aussi transporter les gens, c'est pas la même population, c'en est une autre qui peut peut-être être plus difficile si elle est alcoolisée.
Et Toulouse est un réseau de nuit, c'est-à-dire qu'on a. On est à seule Île-de-France, le métro à 3h du matin, le vendredi et le samedi. À la Toussaint, on mettra en plus le jeudi, à 3h du matin, puisqu'on est arrivé à trouver une solution de maintenance. La nuit, le métro vit. Alors, sur le métro à 3h du matin, on a mis en place un renforcement des agents de surveillance dans le métro. Sur les bus, on est sur plus tard minuit et demi, comme pour le tram. Donc ça reste raisonnable, on n'a pas de difficultés particulières. Mais la population jeune qu'on a sur le métro à 3h du matin est une population qui est très festive, parfois un peu alcoolisée. Je préfère d'ailleurs qu'ils rentrent en métro qu'en voiture, ou en vélo, ou en scooter. C'est une population bon enfant. On n'a pas eu de graves problèmes la nuit dans le métro toulousain.
Oui, c'est pas dans la nuit, c'est dans les rues autour de la place du Capitole et autres que se produisent les incidents.
Moi, je disais à mes enfants, si vous êtes attaqué dans la rue, courez dans le métro. Parce que dans le métro, on sait gérer.
Bon, ben voilà un bon conseil, merci. La propreté, comment on la gère? La propreté, c'est compliqué, il faut des services spécialisés.
C'est compliqué parce que...
Les bus sont propres, le métro aussi, quand je le prends, je constate qu'il est propre. Donc, il doit y avoir un gros travail de fait.
Et il y a un gros travail lié à la santé. C'est-à-dire qu'on a multiplié aujourd'hui le nettoyage hydroalcoolique de l'ensemble des points de contact qui existent. Donc, on a plus de nettoyage qu'il y a 6 mois à cause du Covid. C'est un élément... Alors, on essaye d'être le mieux possible, mais la perfection sur la propreté, c'est toujours améliorable. On a fait des campagnes de civisme, on a fait des tas de campagnes.
Oui, la propreté, ça commence d'ailleurs par l'usager, c'est à l'usager.
C'est ça.
Si l'usager ne jette rien, on n'aura pas beaucoup à nettoyer.
Mais il y a des pays qui sont très propres, essentiellement parce que les usagers sont respectueux de cette situation.
Comment vous gérez les fréquences de passage, les heures de pointe, les week-ends? Il doit y avoir des calculs sophistiqués.
Alors, il y a à la fois des calculs sophistiqués et de la présence humaine. C'est-à-dire que le métro est sans chauffeur, mais il est géré par un PC. Et donc le PC évalue l'éventuelle densification de la population pour augmenter les fréquences. Là, je parle du métro. Après, on a un suivi de tout ce qui est événementiel. C'est-à-dire que ce week-end, par exemple, il y a sur Francazal une opération qui va passionner les jeunes. Ben, on a mis en place un renforcement des fréquences de bus sur l'axe en cause, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de monde. Donc on essaye de gérer au mieux. Alors, on pourrait toujours dire qu'il faut envoyer le maximum de moyens, mais tout est une question de coût. C'est-à-dire que si on envoie des moyens et qu'il n'y a personne dedans, ben, on gaspille l'argent public. Il faut le voir comme ça. Donc on essaye de trouver un équilibre, c'est jamais parfait.
C'est souple, vous parliez du PC métro par exemple, il peut considérer que là il y a une particulière affluence et injecter, si je puis dire, de nouvelles rames.
Ils peuvent, oui.
C'est plus facile sur le métro que sur le bus, j'imagine, puisqu'il n'y a pas de chauffeur et c'est de la mécanique.
Le métro, les effets foule sont beaucoup plus importants que sur les effets bus. On a peu d'effets foule sur le bus. Par contre, sur le métro, on peut. Et dans ce cas-là, il faut injecter et on arrive à augmenter des rames jusqu'à moins d'une minute par d'attente.
Je ne sais pas pourquoi je pense à ça pendant qu'on parle, mais j'ai un flash qui me revient sur la place des Capitoles quand il y avait ces bus avec le chauffeur et le receveur à l'arrière qui avait un petit tic là, Puis Clochette qui l'actionnait pour dire
et qui se garait devant les arcades.
Et qui se garait devant les arcades.
Le terminus était devant les arcades.
Oui, là, ça fait un peu quand même vieux, je ne dirais pas quoi, mais on remonte très, très loin. Il y a deux types de Toulousains, moi, dans la ville. Il y a le Toulousain intramuros qui y vit, et puis il y a ceux qui viennent de la périphérie. Ouais. Comment vous les prenez en compte, tout cela? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Alors, vous allez me dire à travers le fameux Parlement et les élus des communes environnantes. Mais est-ce qu'il y a une gestion particulière pour ces gens-là,
cette population? Les points terminaux du métro sont les points névralgiques pour ça.
Oui.
Actuellement, par exemple, si vous allez un vendredi soir à Ramonville, à la station Ramonville, vous allez trouver une foule étudiante considérable qui vient faire du covoiturage à partir de là. Donc ce sont des gens qui viennent de plus loin et qui ont besoin d'être accueillis en termes de connexion. Alors on a plusieurs stratégies. On a d'abord une stratégie sur le réseau bus, par exemple l'INEO, les 10 LINEO qui sont en place, sont destinés à aller chercher les gens le plus loin possible et le plus rapidement possible. Mais on a aussi toutes les capacités de stationnement qu'on est en train de développer.
Mais je voulais vous poser cette question, comment on gère, parce que les gens, il faut qu'ils arrivent à ce point, que ce soit bus ou métro, donc ils y arrivent soit à pied, ça doit être assez rare, soit en vélo, soit en voiture. Il faut qu'ils entreposent leur matériel.
Exactement, donc il faut trouver des moyens d'équilibre. Par exemple, sur Bassocambo, on est en train de construire un parking de 500 places. Donc ce sont des moyens importants et on essaye de répondre à...
Ce sont des parkings payants?
Alors ce sont des parkings gratuits si vous utilisez les transports
en
commun. Et par contre, on a mis en place, assez récemment d'ailleurs, un système payant. Pourquoi? Parce que notre réseau devenait le parking gratuit de personnes qui faisaient autre chose que les transports.
Notamment un exemple. Peut-être à Grammont, parce qu'à Grammont, on allait au Mammouth, comme on disait autrefois, mais non, c'est plus le Mammouth, mais les gens se garaient là et puis partaient en métro.
Moi, je pense à autre chose. Je pense à Rennes, où les gens se garaient à Rennes, partaient en voyage en Polynésie en prenant le tram jusqu'à l'aéroport et revenaient 15 jours plus tard prendre leur voiture qui était restée gratuitement à Rennes. On évitait comme ça le paiement des parkings à aéroports.
Qui ne sont pas donnés.
Donc, ils ne sont pas donnés. Et donc, on a mis en place un système de barrière à paiement. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, il va se retrouver à devoir payer son temps de présence sans ticket dans le parking toulousain. Donc, on a mis en place un système parce qu'on veut réserver ce stationnement à des gens qui utilisent les transports en commun.
On parlait du tram et de l'aéroport. Moi, j'avais une question. Pourquoi le tram va aussi lentement? Parce qu'on le double facilement en vélo.
Parce qu'il a été conçu de manière très différente du tram bordelais.
Après, il est très commode, hein, ça, pour aller à l'aéroport, il n'y a pas mieux.
Il va lentement. Si vous regardez le tracé du tram bordelais, vous allez voir que c'est très droit, des grands axes, des stations éloignées les unes des autres, c'est un tram qui va très vite. Le tram toulousain, il fait des détours, il fait des virages.
Il flâne.
Il flâne un peu, il a des arrêts fréquents, etc. C'est l'histoire de la conception de ce tram qui fait que, on le referait aujourd'hui, peut-être qu'on le referait différemment. Hein, mais ce n'est pas un tram rapide.
C'est très, très utilisé le tram.
Alors ça met du temps à démarrer. Ça met du temps à démarrer, mais aujourd'hui il y a une montée en puissance régulière. Le tram bordelais, il fait 100 000 jours chaque ligne. C'est assez. Nous, on est parti, on était à 35 000 jours. Aujourd'hui, on est plus près de 60. Donc il y a une montée en puissance qui est régulière. Mais ce n'est pas un des trams les plus fréquentés de France.
Et pourtant très agréable. Beaucoup plus que le métro, on est quand même à l'air libre. Si vous allez dans cette direction. Parce qu'aller aujourd'hui à l'aéroport de Toulouse, vous mettez autant de temps pour gagner l'aéroport du cœur de Toulouse que pour aller de Toulouse à Paris, voire pour faire le vol. Hein. C'est effarant.
C'est peu intéressant.
Lorsque vous prévoyez une ligne, lorsque vous prévoyez des arrêts ou des stations, finalement, vous influez sur le prix de l'immobilier. Vous pouvez faire monter des quartiers, vous pouvez en faire culbuter d'autres.
C'est vrai, c'est vrai.
Est-ce que ça rentre dans votre réflexion? Parce que c'est une espèce de pouvoir exorbitant, mais qui est aussi incontournable.
On fait de l'aménagement urbain. C'est-à-dire que je crois qu'il faut distinguer spéculation et aménagement urbain. Quel intérêt on aurait de décider que tel quartier va devenir plus cher que tel autre?
Parce que vous y avez des appartements dont je plaisante, bien sûr.
Hélas, non. Et donc, on se base sur quoi? On se base essentiellement sur la densification de la ville. Pourquoi le métro passe sur la partie nord? Parce qu'on est dans le quartier de l'avenue des États-Unis. C'est un quartier qui est aujourd'hui pas très attractif. Des concessions auto, un bâtiment pas intéressant. Et donc, un quartier qui a une très forte capacité de renouvellement. Si vous passez par le centre-ville, il n'y a pas de capacité de renouvellement. On est sur un habitat qui ne bougera pas. Tandis que si vous partez sur ces zones-là, vous allez faire un levier face à un quartier qui aujourd'hui n'est pas intéressant et qui peut le devenir. Et donc on fait attention à ça. Alors c'est vrai que c'est attractif. Hein. Moi, quand on a lancé les lignes Néo, j'ai vu apparaître l'affichette dans les agents immobiliers près de la ligne Néo 2.
Ça devient un argument
de vente. Près du tram, près du métro, c'est classique. Actuellement, on a des gens qui mettent près du futur métro. Voilà, c'est des choses. Mais le levier pour l'élu, c'est de se dire quelle est la zone de la ville qui pourrait muter, pourrait se renouveler, se densifier, se... Et c'est comme ça qu'on a décidé de passer par le Nord Toulousain, en plus de la connexion avec la station de SNCF de Lavache.
Alors justement, on en vient à la question par laquelle nous terminerons, même si elle est un peu longue à traiter. Je me suis beaucoup posé de questions sur la prospective, la prévision, l'évolution. Faire un système, un maillage, comme vous le faites sur une ville, ça veut dire, on ne le fait pas pour demain ni pour après-demain, on le fait sur le long terme, ce sont des investissements très lourds. Donc est-ce que vous faites un pari sur l'accroissement de la ville et un pari sur les lieux d'accroissement ? Donc comment ça se passe ? Vous avez une boule de cristal ?
Alors il y a aujourd'hui un travail juridique qui permet de vérifier que les élus ne font pas n'importe quoi.
C'est pas ce que je voulais dire, comment arrive-t-on ?
Il y a une explication en fait. Il y a ce qu'on appelle les enquêtes publiques sur les plans de déplacement urbain. Nous, on a eu dans le mandat précédent deux enquêtes publiques. L'enquête publique généraliste sur le PDU, le plan de déplacement urbain, et l'enquête publique sur la troisième ligne de métro. Qu'est-ce qui se passe lors d'une enquête publique ? On présente le projet, on explique pourquoi on passe par tel trajet plutôt que tel autre, pourquoi on fait ses choix, et les citoyens répondent. Et ils répondent en mettant en évidence des critiques. Et aujourd'hui, les gens sont très pointus. On a parfois eu des critiques très très détaillées. Et les commissaires enquêteurs vont faire le bilan de ce qui est avancé par les uns, avancé par les autres, pour valider ou pas le projet. Si le projet n'est pas validé, on se retrouve le bec dans l'eau. Tandis que, en corrigeant parfois, on arrive à intégrer des données. Donc on a vraiment une confrontation entre nos ingénieurs qui ont fait le premier travail, les élus qui ont décidé, et la population qui va confronter ce que nous proposons à ce qu'elle croit être la réalité.
Est-ce que des gens comme Google, par exemple, qui sait beaucoup de choses sur tout, sur nous, peuvent être un allié pour vous, c'est-à-dire en disant, ben voilà, ils connaissent les comportements des gens, ils connaissent les lieux, ils connaissent les commerces, ils savent où vont les gens, ils savent par où ils passent, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas le cacher, ou des gens comme Uber, par exemple. Alors Uber, à Toulouse, c'est peut-être pas très développé, je crois que c'est à Los Angeles qui a demandé à la ville, ils sont d'ailleurs en procès aujourd'hui, de leur donner toutes leurs data pour que la ville puisse comprendre un peu quels étaient les comportements, les besoins, les habitudes des habitants.
C'est un vrai sujet.
Mais là, ils sont en procès parce que c'est très mal passé. Uber a refusé, mais d'autres ont commencé à l'utiliser, donc on est en plein conflit. Est-ce que ici, ce serait imaginable que Google, par exemple, vous dise ben, moi, je connais mieux que vous vos habitants, je sais par où ils passent, je sais où ils vont, je sais où ils s'arrêtent, je sais ce qu'ils vont acheter. Est-ce que ce serait une aide à la réflexion ?
Alors, plus qu'une aide à la réflexion, c'est un enjeu majeur, ce que vous évoquez là, majeur. On est en train de préparer une application qui permette d'avoir sur un seul outil tous les moyens de se déplacer. Je suis à Plaisance du Touche, je veux aller à Balma, quels moyens je peux utiliser pour aller le plus vite possible ? Alors il y aura TCO, bus, métro, etc. Mais il y aura aussi le vélo en libre service, il peut y avoir le covoiturage, il peut y avoir... Et alors c'est un enjeu majeur, pourquoi ? Parce que celui qui va tenir la manière de faire cet outil, il va pouvoir déterminer la manière dont les choses se passent. Si je dis ça, c'est qu'à New York, par exemple, ils ont renoncé à garder cette maîtrise des data. Et ils sont aperçus que l'opérateur privé, ben, il incitait les gens à utiliser des moyens les plus favorables pour l'opérateur lui-même, plus que pour la personne. Ça veut dire que finalement, le transport public déclinait au profit d'outils privés qui étaient mieux valorisés que le transport public. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder, parce que si on lâche tout, on se retrouve avec le système Booking, où aujourd'hui ce n'est plus l'hôtel qui décide du prix de sa chambre, c'est Booking qui impose le prix de la chambre telle qu'elle devrait être. Donc il y a vraiment un enjeu majeur. Alors il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de mieux mesurer les flux, mais on a aussi des prospectives classiques. Hein. On a l'agence qu'on appelle l'AUAT qui nous permet de mesurer les évolutions de la population, les tendances démographiques, les mutations. Donc on a vraiment des outils qui nous permettent, même sans passer par Google, de savoir où on va.
L'État vous aide là-dessus? Ils ont des informations?
Oui, l'État a ses propres outils. Alors, l'inconvénient pour l'État, c'est qu'ils n'ont pas la proximité souvent. Et donc, c'est plutôt nous qui approvisionnons l'État. Par exemple, les enquêtes publiques se font sous couvert du préfet. Ben, les données techniques, c'est nous qui les fournissons à la préfecture.
Donc, vous êtes à même de déterminer les tracés de ligne, mais vous êtes quand même obligé de faire des paris. Qu'est-ce que sera Toulouse dans 20 ans? Alors, si vous ne le prévoyez pas, on va vous le reprocher. Si vous partez sur une mauvaise direction, si je puis dire, et que vous ne couvrez pas certains quartiers qui vont se développer, on va aussi vous le reprocher. Comment vous opérez les choix là? Parce que c'est des paris que vous allez faire.
C'est des paris et des confrontations politiques. Aujourd'hui, deux villes qui étaient des villes de tram, Bordeaux et Nantes, connaissent un débat très important sur faut-il faire un métro. Pourquoi? Parce que les lignes de tram sont arrivées dans ces deux villes à saturation complète. Ils n'ont plus la possibilité d'en créer d'autres. Ils ont occupé l'espace public, ils peuvent faire autrement. Ça veut dire quoi?
Pourquoi saturation? Ça veut dire qu'il y a trop de monde dans les rames auxquelles on peut en mettre plusieurs, on peut les allonger.
Oui, mais une rame de tram, c'est une rame qui passe dans le centre-ville et qui donc bloque la circulation des voitures, etc., etc. Donc il y a des points de non-retour où on ne peut pas aller forcément partout. Le problème de Bordeaux, ce n'est pas forcément de rajouter des rames dans le tram, c'est plutôt de mettre en place de nouvelles lignes qui captent sur des zones nouvelles la population. Et ça, ils ne peuvent plus parce qu'ils sont sur un système qui est saturé. Il n'y aura plus qu'une possibilité de ligne sur Bordeaux. Après, il faudra avoir autre chose. D'où le débat. Mais c'est un débat qui consiste à dire la seule solution, c'est de passer dessous et donc de créer un
métro. Ou dessus. Que nous passons dessus maintenant.
Oui, on passe des deux côtés. Mais après, c'est tout le débat politique. Chacun va valoriser ce qui lui semble être, j'espère avec lucidité, le meilleur système possible. Et là, il peut y avoir débat.
Bordeaux est quand même une ville, je râle hein, quand je suis au volant en Toulouse, j'essaie d'être le moins souvent possible, c'est une ville beaucoup plus engorgée que Toulouse. C'est horrible, Bordeaux.
Et
horrible.
On ne le sait pas toujours. On ne le sait pas toujours, hein, mais Bordeaux est toujours placé très largement devant nous sur l'engorgement du centre-ville. Alors, il y a des contraintes. Ils ont
bon, la ville est plus petite aussi. Hein.
Puis, ils ont le bouchon que constitue la Garonne, qui casse les flux. Enfin,
pourquoi on n'utilise pas plus la Garonne? Nous, on n'est pas tourné vers la rivière. Elle passe là, mais personne ne s'y intéresse. On aurait pu imaginer des navettes. Vous
on a fait des études. Oui. Mais ce qui est important en transport public, c'est la notion d'origine-destination. Mettre en place une navette sur la Garonne ou sur le canal, c'est aller d'où à où. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, les flux, il n'y a pas de demande sur la Garonne. On a testé pendant les événements sportifs ces navettes-là. Par la Garonne, on va où et on part d'où? Quand on pose la question, même chose pour le canal. Alors, en plus, le canal, il y a un autre problème, c'est que la vitesse commerciale sera nécessairement très faible pour protéger les berges.
Les berges, donc, et puis il y a les écluses aussi. Les écluses,
hein. Donc on a testé, mais on parle toujours de projets comme ça, de manière politique, mais ça ne débouche jamais parce que la réalité technique n'est pas intéressante. Qui part du quai de la Dorade pour aller je sais pas, vers l'Oncopole? Pas grand monde. Quoi. Il vaut mieux prendre un bus qui va plus vite.
Oui, c'est vrai. Quand on voit l'Oncopole, c'est quand même pas très ludique. Donc j'imagine que la balade sur la Garonne est superfétatoire. Comment vous voyez l'avenir de Toulouse aujourd'hui? On sait que l'aéronautique va peut-être battre de l'aile. On disait, vous allez me corriger, qu'il arrivait à peu près dans les 15 000 personnes par an à Toulouse. Oui. Demain, il risque d'en arriver moins et peut-être certaines d'en partir. Peut-être pas, hein, mais c'est vrai que l'aéronautique aujourd'hui pose différents problèmes. Donc notre ville peut-être va avoir un moindre développement et peut-être certaines personnes vont quitter cette ville. Ouais. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça modifie votre schéma de transport que vous avez dans la tête, enfin plus que dans la tête et sur les plans bien sûr? Est-ce que ça va faire que, par exemple, tirer la troisième ligne, peut-être qu'il n'est pas utile de la faire ou de la faire différemment?
Alors sur les grands projets, projets lourds, on va rester sur des fondamentaux parce que ces grands projets sont des projets qui vont créer l'architecture de la mobilité toulousaine pour un demi-siècle. Hein, donc on est pas forcément inquiet sur du long terme. Il peut y avoir des évolutions sur le court terme, mais il faut savoir d'où on vient. 15 000 personnes par an, c'était considérable. On était la ville qui se développait le plus. Et ça crée plus de soucis que d'avantages. Donc si on a une atténuation de cette progression de la population à Toulouse, ça nous permettra de respirer un petit peu, même si on aura des recettes inférieures. Donc je ne crois pas que ce soit une difficulté. On va suivre quand même les choses. aujourd'hui, on ne sait pas très bien où on va. Hein, Airbus annonce qu'il retrouvera peut-être son niveau actuel dans 4 ans à peu près. On va voir. Mais 4 ans à l'échelle d'un projet comme le métro, ce n'est pas grand-chose. On est sur un projet à 40-50 ans. Donc, il peut y avoir des adaptations différentes, il peut y avoir des choix différents, mais sur les fondamentaux, la ville aura besoin de mobilité, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et les villes qui ont renoncé à des projets étaient des villes qui étaient en totale récession, avec des difficultés aujourd'hui importantes.
Ça fonctionne à quoi tout ça là ? Quelle est l'énergie qui fait tourner les bus ? J'imagine que c'est le gasoil, le métro, l'électricité.
Le gasoil a été abandonné en 2014. En 2014, on a décidé qu'on ne commandait plus de bus au gasoil. Et donc, on est aujourd'hui sur des énergies propres. 60% du réseau est au gaz, à peu près. Hein. Et ça sera plus important dans les mois qui viennent. En 2025, on n'aura plus du tout de gasoil sur les bus toulousains. On a la navette électrique sur l'aéroport. On a la navette du centre-ville qui est électrique. On va commencer à tester l'hydrogène, puisqu'on est en train de participer à une création de centrales de production. Mais l'hydrogène, ce n'est pas demain.
Non, il faudra attendre un peu et on n'est pas sûr du résultat.
Ouais. Donc on est essentiellement sur gaz et électricité. Ce sont les deux outils que nous développons et aujourd'hui, ils sont très largement majoritaires.
Donc c'est quelque chose de tout à fait vert, puisque l'électricité aujourd'hui, nous sommes producteurs à 75% en nucléaire et 15% par l'hydro, donc finalement on est autosuffisant.
Et le gaz marche très bien aussi. Hein. Aujourd'hui, les réseaux français qui sont qualifiés de propres sont des réseaux essentiellement au gaz.
Est-ce que vous envisagez de restreindre la voiture dans Toulouse ? Parce qu'on a bien vu que certains aménagements routiers, on a râlé, et puis on s'est dit quand même, ils n'ont plus envie qu'on vienne, ils n'ont plus envie. Mais ça se comprend aussi sur le plan écologique. On peut peut-être rappeler qu'il y a quand même, à cause des particules fines, qui sont de deux origines, mais 60 000 morts par an, donc on pourrait peut-être éviter ce genre de désagréments. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus que, ou quasiment plus que, des transports en commun.
Alors, nous, on est sur une logique d'équilibre, c'est-à-dire qu'on veut réduire la part de la voiture en ville, c'est une évidence. On ne l'a pas beaucoup dit, mais pendant le mandat qui vient de s'écouler, on a supprimé 800 places de stationnement en surface. Donc, si vous allez le long des quais, il y avait autrefois une rangée de stationnement. Aujourd'hui, c'est une grande piste qui le remplace. Donc, on est sur cette logique-là. On a mis en place une zone 20 sur le centre-ville qui va entraîner des interruptions de flux. Le maire vient d'acter la zone à faible émission, la plus grande des trois projets qui lui ont été proposés. Donc on est sur une tendance qui va réduire la voiture en ville. Alors, on n'est pas sur le zéro voiture parce qu'il y a l'usager. On s'aperçoit que si on décide qu'il n'y a plus de voiture en ville, il y a des personnes qui ne viendront plus du tout en ville hein, parce qu'elles ont des besoins particuliers. Aujourd'hui, on a des facilités laissées aux artisans, aux médecins, aux personnes âgées, aux familles pour pouvoir accéder au centre-ville. Si on les supprime, ça sera compliqué. Mais par contre, je crois qu'on est sur une tendance qui est mondiale, à savoir que le véhicule individuel, il a moins sa place en centre-ville qu'autrefois.
Oui, ce qui est quand même une excellente chose. Après, il y a d'autres types de mobilité, mais qui ne sont pas dans votre orbite, si je puis dire, c'est le vélo, ces trottinettes qui passent à toute vitesse.
Un peu quand même le vélo, parce que Tisséo est chargé d'organiser la coordination vélo avec les grandes pistes qu'on va créer entre Toulouse Métropole.
Ce serait bien qu'il y ait des pistes à Toulouse pour faire du vélo. Moi-même, ouais. Je ferais du vélo, mais par exemple, remonter l'avenue Saint-Exupéry en vélo aujourd'hui, il faut être très courageux. Hein.
Oui, il y a le passage canal qui est pas mal.
Oui, mais il faut y arriver ouais. Jusqu'au canal.
C'est vrai. Donc, je crois qu'il y a un grand progrès à faire sur ce côté-là. Pas seulement d'ailleurs sur Toulouse, mais aussi sur les liaisons entre Toulouse et les villes voisines, parce que c'est là qu'on a les plus grandes difficultés. Après ce trottinette, on a fait un choix à Toulouse. Quand un opérateur américain a mis en place des trottinettes en libre service sans nous demander notre avis en 48 heures, on l'a interdit. Et puis, on vient de décider que finalement, on ne ferait pas d'appel d'offres. On sera la seule ville, grande ville, à ne pas faire d'appel d'offres sur les trottinettes en libre-service, parce qu'on considère qu'il y a déjà le vélo en libre-service, qu'il y a le scooter en libre-service, etc., etc., et que la trottinette crée plus d'ennuis qu'elle n'offre de facilité. Donc chacun pourra avoir sa trottinette privée, mais on ne mettra pas en place de trottinette en libre-service à Toulouse. C'est un choix.
Et pas de parking à vélo ou de choses comme ça, parce que les vélos, c'est accroché un peu partout. Alors des fois, il n'y a plus que la roue quand on arrive. Enfin, vous savez, vous avez...
On a créé 2000 emplacements dans les deux dernières années supplémentaires. Alors, on ne le voit pas toujours, mais Place du Capitole, le premier étage, est un immense parking vélo qui n'est jamais plein. Sur le centre-ville, on a augmenté fortement la capacité de stationnement vélo. Ce n'est pas pour autant suffisant. Il faut qu'on aille plus loin et donc on réfléchit à ce problème. C'est vrai que l'accroche vélo, c'est un vrai sujet.
Et mon vélo, si j'ai un vélo, est-ce que je peux l'amener dans le métro ? Non, ce n'est pas possible. Là,
hein, on peut dans le tram sur des horaires de faible affluence, mais dans le métro, on ne peut pas. Bon, là aussi, ce serait une complexité supplémentaire. Par contre, même si c'est plus limité, on pourra dans le téléphérique. Dans le téléphérique, on pourra passer en vélo.
Ah oui, on pourra monter le vélo dans la...
Oui, parce que les configurations des cabines varient de l'une à l'autre. Une toutes les minutes et demie, il y aura des cabines qui seront spéciales vélo où on
pourra
passer
bien.
En vélo. Et donc, l'intérêt, c'est que ça peut vous monter au sommet de Pêche David et ensuite, vous faites en vélo un parcours VTT. Intéressant.
Bon, oui, j'allais peut-être finir par m'acheter un vélo à Toulouse, alors, on ne sait jamais. Bien, Jean-Michel Latte, on a fait un large tour d'horizon. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, peut-être.
Non, je crois que c'est un sujet qui n'est jamais fini, la mobilité. C'est un sujet qui n'est jamais fini. Donc, on parlait du vélo, c'est mon ami Philippe Perrin qui était élu maintenant sur cette délégation, l'ancien astronaute. C'est quelqu'un qui est très passionné par l'écologie. Et donc, je crois qu'il va faire un bon boulot sur ce thème-là.
Ben, espérons-le, parce qu'il y a quand même un gros besoin aussi ici. Il y a tout à faire. Moi, je me souviens, quand je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, mais quand j'avais 16 ans, et vous savez l'âge que j'ai aujourd'hui, il y avait beaucoup, beaucoup de pistes cyclables, alors qu'ici, 60 ans après, enfin pas 60 ans, mais un demi-siècle après, il n'y a toujours rien. Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant. Merci Jean-Michel Latte de toutes ces explications. Puis comme vous l'avez dit, c'est évolutif, donc j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour en parler. Puis on ira peut-être ensemble, si j'ose dire, s'envoyer en l'air hein, pour faire le parcours. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne que nous avons réalisée à la mairie. Avec à la technique Yanis Boudin, notre technicien. Une émission que vous pourrez retrouver sur le podcast, vous retrouverez son podcast ainsi que ceux d'ailleurs de toutes les autres émissions sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.